13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je vous retrouve une nouvelle fois avec plaisir jusqu'à 16h pour parler de vos expériences de vie. À mes côtés, ma camarade Ombline.
Bonjour.
Comme d'habitude, bonjour.
Oui, avec plaisir,
vous
je vous accompagne Olivier, ça va bien, merci.
Pendant une heure, nous allons parler de vous, de vos joies, de vos peines, de votre vécu, car il nous intéresse ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir soi-même, ne pas se reconnaître dans le corps qui nous a été assigné dès la naissance. C'est ce que vivent les personnes transgenres, comme si ce corps, ce sexe, ce n'était pas le leur, comme si ce n'était pas eux. La transidentité a de nombreux contours que la société ne veut pas voir. Certains se font opérer, d'autres non. Ce n'est pas une question de choix, cela s'impose à eux. Les personnes transgenres veulent être elles réellement, pleinement. Alors, qu'est-ce qu'un parcours de transition? Quelles en sont les étapes? Que vit-on?
C'est une nouvelle vie. C'est un grand moment pour la famille, pour nous trois.
C'est pas compliqué. Tu veux qu'on vous prenne pour une fille ou pour un mec?
Fille.
Et voilà.
Je te demande comment ça va parce que tu ne dis jamais rien. Voilà pourquoi je te demande comment ça va.
Y'a une raison, non?
Y'a une raison de quoi? Pourquoi tu ne dis plus jamais rien?
Bah, c'est peut-être parce que ça va pas.
T'es dans une des meilleures écoles de danse du pays. T'as des médecins qui te suivent. Tout se passe bien. Hein? Tout se passe bien.
Le film Girl de Lucas Don parle, lui, du parcours et du quotidien de Lara, jeune danseuse étoile transgenre. Alors, personne transgenre, quel parcours de transition? On en parle aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et pour cela, vous n'hésitez pas à composer le 39-21, 50 centimes la minute. On vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1. Et évidemment, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Lily sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lily.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors je vous appelle de Tourcoing, près de Lille. J'ai 31 ans.
D'accord. Alors Lily, vous dites que depuis toujours, vous sentiez un malaise, une gêne, sans pouvoir trop l'expliquer. Mais que ressentiez-vous exactement?
En fait, du coup, je vais genrer au masculin. Quand j'étais petit, que j'étais par exemple dans les vestiaires communs, dans les vestiaires garçons, je me sentais pas à ma place. Je me sentais mal à l'aise d'être pas forcément nu, mais même rien que torse nu devant oui. les autres garçons, mm-hmm. sans savoir que j'allais pouvoir avoir le droit d'aller de l'autre côté, en mm-hmm. fait, dans les autres vestiaires, sans savoir que c'était autorisé. Je savais pas tout ça, donc j'avais ce mal-être qui était là en permanence en moi, que ça soit donc comme là par exemple dans les vestiaires, à la plage, c'est pareil, me mettre torse nu à la plage, c'était assez compliqué de supporter le regard des gens malgré que je ne m'acceptais pas moi, mmh. physiquement. La piscine aussi, c'est pareil, c'est des endroits qui étaient très compliqués à aller, il fallait que je fasse des efforts assez compliqués pour mmh. pouvoir y aller.
Vous dites c'était assez dur. Vous dites que vous êtes assigné homme. Expliquez-moi ce que cela veut dire exactement pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et pour qui ça ne peut pas être obligatoirement très clair. C'est une souffrance d'être assigné homme, mais ça veut dire quoi?
En gros, qu'on vous définit dès la naissance par rapport à votre sexe. Donc,
oui.
Soit vous êtes genré en tant que masculin, soit vous êtes genré en tant que féminin. Le souci, c'est que c'est pas forcément on vous assigne pas forcément le bon genre à la naissance en fait
oui.
et vous avez pas votre pouvoir de décision quand vous êtes petit ou petite
mm-hmm.
donc voilà et vous savez pas encore que vous êtes pas en accord aussi avec votre genre
mm-hmm.
et tant qu'on sait pas ce que c'est que la transidentité ou les personnes transgenres on est en recherche et on est complètement paumé en fait dans tout ce problème là.
Mmh. Vous évoquez d'ailleurs toutes les gênes que vous avez ressenties enfant ou à l'adolescence. Vous gardiez tout en vous à cette époque. Personne n'était
oui,
au courant.
Ouais,
vous n'en parliez à personne. Non,
du tout. Vu que je savais pas comment exprimer ce mal-être, j'en ai jamais parlé à personne. Il
mmh.
n'y a personne qui était au courant.
Et c'est à l'âge de 30 ans, hein, je crois, qu'il a fallu que vous soyez véritablement vous-même. Comment vous avez réussi à mettre des mots sur tout cela et quel mot choisit-on dans ce moment-là?
Alors, c'est très compliqué parce que je savais pas, même à 30 ans, je savais pas que la transidentité, ça existait. Oui. Donc, en fait, le premier mot qui m'était venu à moi, c'était, alors je veux pas cataloguer les gens du tout en disant ça, mais c'était les travestis. Et donc, une personne travestie est en général, je dis bien en général, une personne qui, enfin, homme qui se déguise entre guillemets en femme, et moi c'est ce qui m'arrivait au début, c'est comme ça que je commençais à me découvrir et à me reconnaître. Oui. Sauf que ben, quand vous tapez travesti sur Google, c'est horrible, c'est complètement horrible, parce que le mot est affilié en général à 90% au sexe, et ben, c'est pas ça du tout en fait.
Alors vous savez, quoi, vous voulez que je vous fasse une confidence? Juste avant l'émission, j'ai tapé le mot transgenre pour aussi voir l'image qui, oui, représentait ce mot, et j'ai trouvé que c'était pareil, que ça n'était, oui, pas du tout représentatif, que toutes ces photos avaient quelque chose de très dérangeant.
C'est complètement ça. C'est que, en fait, à partir du moment où vous dites que vous êtes transgenre ou vous êtes en transidentité, mmh, on va tout de suite vous poser des questions sur votre intimité sexuelle, alors que bah, ouais, ça n'a rien à voir du tout, en fait. C'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment dommage, en fait. C'est très malheureux.
Lily, vous avez fini par l'annoncer à votre entourage et surtout à votre compagne de l'époque, notamment. Comment a-t-elle réagi à cette annonce?
Très mal. Elle l'a très mal vécu parce que, en fait, elle a... Comment dire ça? Elle a cru que ça venait d'elle, que le problème, on va dire, je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est pas un problème pour moi, venait d'elle, que c'était, j'exprimais son manque de féminité chez moi, en fait. Alors que bah, pas du tout. Moi, c'était juste un mal-être et que j'avais en moi depuis des années, et puis que j'ai commencé à extérioriser. Mmh. Et donc elle l'a très mal pris, et on en est venu à se séparer.
Bon, on va continuer à parler de votre histoire dans quelques instants. Lily, vous restez bien évidemment avec nous. On va parler justement aussi de vos parents, hein, de comment ils ont pris cette nouvelle, et savoir comment vous avez géré tout ça au quotidien ensuite. On se retrouve, ne quittez pas.
Europe 1. On parle des personnes transgenres cet après-midi qui ne se reconnaissent pas dans le système binaire homme-femme. Ça vous concerne? Venez partager votre expérience, votre histoire au 3921. Vous nous envoyez vos messages, vos commentaires, Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 également. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921. Pour nous appeler, nous parlons des personnes transgenres. Quel a été votre parcours de transition? Venez nous raconter ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passé.
Et nous sommes toujours en ligne avec Lily qui a opérait ce parcours de transition et qui nous expliquait dans la première partie de cette émission qu'à l'annonce de ce parcours qu'il allait entamer, en fait, que votre compagne vous avait quitté. Une réaction violente, on va dire. Quand vous l'avez abordé avec vos parents, je crois que ça a été très mal perçu, compris par votre père. Expliquez-moi comment il a compris tout ça.
Alors, ça a été mal perçu, oui, mais ça a été en fait perçu surtout du côté, c'était juste de l'amusement et un déguisement pour lui. Donc, il pensait pas que c'était une chose réelle, il pensait pas que c'était qu'il y avait cette transidentité qui était là derrière et tout ça. Donc c'est assez mal passé. Ma mère n'a rien dit parce que je reste son enfant quoi qu'il arrive. Je pense que la réaction a été différente, mais oui. Mais mon père m'a bien rappelé à l'ordre que c'était juste un déguisement, que j'avais pas à faire ça, et encore moins devant mon fils.
Et aujourd'hui, en fait, votre père a compris. Je suppose que on est loin d'une histoire de déguisement. Donc où en êtes-vous par rapport à lui? Quels sont vos rapports?
On se contacte, on parle de la pluie, du beau temps, d'autres choses. On s'appelle, mais on parle pas de ça.
Cela veut dire qu'il est dans le refus total d'accepter.
Peut-être, mais je n'ose pas aller vers lui pour pour lui en parler. Je pense qu'il ne fait pas la même, il n'ose pas faire la même chose aussi.
Alors, il y a quelque chose de très lumineux dont je voulais vous parler, c'est votre petit garçon de 8 ans qui, comme on le sait, je disais avant-hier que les enfants, lorsqu'on parlait de la maladie des enfants, les enfants mettent de la magie partout. Et pour votre enfant de 8 ans, vous êtes passé de Captain America à Wonder Woman sans problème pour lui.
C'est ça, tout à fait.
Racontez-moi ça, parce que c'est plutôt le voyage naturel finalement qui s'est opéré.
Oui, j'avais mes deux plus grosses appréhensions avant de pouvoir complètement m'extérioriser aux yeux de tout le monde et de l'annoncer à tout le monde. C'est mes dernières étapes avant de commencer justement réellement la transition, parce que dans ma tête elle est déjà commencée depuis un sacré moment.
Oui.
Il fallait que j'en parle avec mon fils et il fallait que j'en parle à mon travail, parce que je voulais pas me retrouver sans mon enfant non plus, et puis sans boulot, plus avoir de vie. Donc ces deux étapes-là sont passées, et donc celle avec mon fils, ça a été on a eu un échange un soir où je lui ai dit, on s'est posé tous les deux calmement dans sa chambre et tout ça, on discutait et je lui ai dit, en fait lui il a été diagnostiqué dyslexique, mais une dyslexie légère. Donc, ce qui fait qu'en fait, il a une différence par rapport aux autres personnes, aux autres enfants,
oui.
Et il est très introverti. Et en fait, j'ai travaillé un petit peu là-dessus avec lui pour lui amener la chose en lui disant que moi aussi, j'étais différent, en fait, et que je ne me reconnaissais plus en tant qu'homme et que j'allais passer de l'autre côté.
Oui.
Et sa réaction était juste un petit hochement de tête en me disant « c'est bizarre, mais d'accord ». Et puis, il m'a fait des câlins comme vous ne pouvez pas imaginer, et plein de bisous. Sa réaction a été la plus adorable. Quoi.
Oui, et ça a dû vous donner une sacrée énergie pour continuer, parce que ensuite, bien évidemment, il y a ce parcours, donc la prise d'hormones. Vous êtes senti délivré à partir du moment où vous avez entamé ce parcours?
Oui, voilà. Enfin, là, mes hormones, je vais les commencer à partir du début du mois prochain.
D'accord.
Mais on va dire que le oui, c'est, ça a été une libération. En fait, ça a été une libération déjà de la part d'entendre ça de la bouche de mon fils, de me dire écoute, c'est pas grave quoi. Tu fais ce que tu veux. Et c'était énorme. Et après l'étape du travail de mon travail, ça a été pareil quoi. Le fait que mon patron accepte ça, le comprenne complètement en plus, et qui est même prêt à faire des aménagements au cas où j'aurais besoin d'aménagements sur mon lieu de travail.
C'est énorme ça, vous travaillez en fait sans donner de précision, mais c'est énorme ça, ce patron là qui comprend tout, il faut souligner ça.
Carrément, c'est
énorme. Parce qu'aujourd'hui, Lily, vous êtes une femme incomprise. Vous dites que vous êtes jugée, vous êtes jugée même parfois par le corps médical, et que la société n'est pas prête à vous entendre, à vous comprendre. Mais il y a ce patron qui va faire beaucoup pour vous, j'ai l'impression. Mais comment l'expliquez-vous, ce regard de la société sur vous?
Que ça soit sur moi ou sur les autres personnes en transition, en transidentité, que ça soit les hommes vers les femmes ou les femmes vers les hommes, c'est le manque d'information en fait.
Oui.
C'est le manque d'information qui fait qu'on est jugé comme ça, et qu'on puisse recevoir autant d'insultes des autres personnes. Et c'est surtout, je pense, une histoire d'éducation qui doit commencer dès le départ.
Mmh.
Qui devrait commencer même avant le collège, où on devrait
sensibiliser les... À l'école.
Oui. Mmh. À l'école, et même de la part des parents, de la famille, sensibiliser les enfants en fait à ça, pas les induire dedans, mais juste les sensibiliser, leur donner l'information que ça existe en fait, qu'il n'y a pas que des hommes et que des femmes, il y a des personnes qui sont en transidentité, qu'il y a des personnes qui sont intersexes aussi, qui se sentent autant rejetées que nous, parce qu'elles ne sont pas reconnues par la société, et c'est horrible. C'est horrible comme sentiment.
En tout cas, aujourd'hui, vous avez fait les premiers pas qui vous mettent sur ce chemin, Lily. Et pour ça, bravo. Et je vous souhaite bien évidemment beaucoup de courage. Et puis, voilà, tout va se faire progressivement. Vous allez voir, tout va bien aller. Vous embrassez votre petit garçon de 8 ans qui a été le premier à vous entraîner, à vous donner de l'espoir. Et je vous remercie infiniment pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Nous allons continuer à échanger sur ce parcours de transition avec Emmanuel Beaupaty. Il est sociologue et il a travaillé sur la santé et la sexualité dans les parcours d'hommes et de femmes trans en France.
Et Gwenaëlle témoigne sur Facebook. C'est un extrait de son témoignage, Gwenaëlle, qui raconte avoir eu un parcours tardif dès ses 40 ans, parcours médical. Il dit avoir trouvé ses propres réponses. « Ça ne change en rien qui je suis, ma personnalité, ça m'apporte surtout une liberté de vivre totalement sans frein. Je ne renie pas mon parcours passé avec mon corps féminin. Ça me donne une compréhension supplémentaire de l'autre et du monde environnant. »
Europe 1.
Ce que vit Lily, on a entendu, ça vous parle comme le témoignage de Gwenaëlle. Vous témoignez au 39-21. Vous aussi, vous êtes devenu vous-même. Venez nous raconter votre histoire sur Europe 1. Vous écoutez, vous échangez avec Olivier Delacroix au 39-21. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons aujourd'hui du parcours de transition des personnes transgenres. On vous a assigné un corps, un sexe qui n'est pas le vôtre.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Emmanuel Beaupaty, sociologue, associé à l'IRIS. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel parcours les personnes trans connaissent-elles pour être vraiment elles-mêmes et le faire reconnaître surtout ?
Eh bien, bon, déjà, il y a une grande diversité de parcours d'hommes et de femmes trans en France, hein, mais en tout cas pour les personnes qui souhaitent avoir recours à des modifications corporelles médicalisées, eh bien, doivent en passer par une évaluation psychiatrique avant de pouvoir accéder à des hormones et des chirurgies. Et cette évaluation psychiatrique, elle peut être plus ou moins longue. Hein. Donc pour les personnes qui sont suivies à l'hôpital, qui n'ont pas forcément les moyens d'être suivies en libéral, ça peut durer quelques années, ça peut aussi ne pas aboutir. Et un des tests réalisés au cours de cette procédure, c'est le test qu'on appelle le test de vie réelle, c'est-à-dire que la personne doit déjà vivre à temps plein dans son sexe de destination. Donc ça, c'est pour les modifications corporelles. Et il y a aussi une procédure pour les personnes qui veulent changer de sexe à l'état civil. Donc c'est une procédure qui est judiciarisée hein, en France. Oui. Et il y a voilà, un dossier à réaliser auprès du tribunal de grande instance. Hein, et ce dossier doit comprendre des attestations de proches, des preuves administratives, des preuves professionnelles aussi, ou scolaires, hein, qui témoignent finalement du fait que la personne vit déjà socialement dans son sexe de destination.
On sent en tout cas dans ce que vous nous expliquez que c'est un réel parcours du combattant qu'entament ces personnes. Mais pourquoi avoir besoin d'une expertise psychiatrique aujourd'hui pour entamer un processus de transition ?
Alors, pourquoi en avoir besoin ? Bon, je ne suis pas sûr de savoir. Par contre, la question de comment elle a été mise en place, cette expertise, cette évaluation psychiatrique, permet de comprendre pourquoi elle existe. Hein. C'est une évaluation qui a été mise en place, en fait, qui remonte aux années 70, hein, qui a été mise en place aux États-Unis. Et en fait, elle est vraiment le résultat de luttes disciplinaires au sein même du champ médical et psychologique. On avait d'un côté un courant d'endocrinologues et de sexologues qui estimaient que le traitement adéquat pour les trans, c'était de modifier le corps. Et puis, on avait aussi, d'un autre côté, un courant psychiatrique qui considérait que le traitement des trans devait être d'ordre plus psychologique. Et finalement, c'est un petit peu un compromis qui a été trouvé entre le fait de soigner l'âme et le corps. Et les trans ont finalement eu accès aux modifications corporelles, mais à la condition seulement d'en passer par une évaluation psychiatrique. Cette
expertise psychiatrique existe dans tous les pays. Est-ce qu'elle existe toujours aux États-Unis aujourd'hui ? Dans certains pays, je pense notamment à l'Asie du Sud-Est, est-ce qu'elle existe ?
C'est un standard de soins qui est international. Après, voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans chaque pays, mais en tout cas, c'est censé être international.
D'accord. Oui. On parle beaucoup de la SOFECT, la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité. Pourquoi est-elle si controversée ?
Alors la SOFECT, déjà, c'est une structure qui regroupe donc, depuis 2010...
Faites attention de bien parler dans votre téléphone.
Pardon. Oui, tout à fait. En fait, c'est un groupe finalement qui regroupe un certain nombre de professionnels de santé qui prennent en charge des trans depuis 2010, qui ne les regroupe pas tous évidemment, mais certains. Et elle est assez controversée parce qu'elle est souvent représentée comme une structure qui défend l'ordre établi d'une certaine manière, les protocoles médicaux tels qu'ils existent aujourd'hui, et notamment justement cette évaluation psychiatrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nos jours des mobilisations collectives de la part des trans depuis les années 90 en France qui militent contre la psychiatrisation du changement de sexe, parce que cette psychiatrisation peut être vécue comme une forme de confiscation du droit à disposer de son corps, tout simplement. Mmh. Et il y a donc une controverse entre des experts professionnels et des mobilisations collectives des personnes concernées, mais j'ajouterais quand même que les médecins et les trans forment des groupes hétérogènes, c'est-à-dire que tous les médecins ne se positionnent pas forcément en faveur de l'évaluation psychiatrique. Et par ailleurs, il y a certains trans aussi qui craignent des fois la dépsychiatrisation, parce qu'en l'état actuel des choses, en tout cas, c'est quand même ce diagnostic psychiatrique qui permet le remboursement des soins médicaux pour les trans. Donc pour les plus précaires, c'est aussi la garantie de pouvoir mener sa transition à terme.
Parce que cette transition coûte très cher, on est d'accord.
Elle coûte un certain prix. Elle coûte un certain prix lorsqu'elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale.
D'accord. Pourquoi notre société est-elle si embarrassée par la question trans dont on entend parler de plus en plus, parce que aujourd'hui nous sommes dans une société avec les réseaux sociaux qui libère la parole. Mais pourquoi notre société continue-t-elle d'être si embarrassée par la question ?
Alors, il serait difficile d'expliquer pourquoi la situation est toujours celle-là, mais je dirais simplement que je pense que les frontières du sexe sont toujours bien gardées et que ça a sans doute quelque chose à voir avec le genre, donc avec finalement le poids de la différence, de la hiérarchie sociale qui existe entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Dans une société relativement patriarcale, le fait qu'on puisse quitter le sexe masculin ou encore le rejoindre après avoir été une femme reste quelque chose de relativement impensable.
Vous avez fait une thèse d'ailleurs intitulée « Transfuge de sexe, genre, santé, sexualité dans les parcours d'hommes et de femmes trans en France ». Dedans, vous dites que si des mobilités sociales entre les sexes sont possibles, elles n'échappent pas à l'emprise du genre. Qu'entendez-vous exactement par là ?
Je dis en effet que c'est pas parce que les personnes peuvent changer de sexe qu'elles échappent finalement à la hiérarchie sociale, comme je le disais, qui existe entre les hommes et les femmes. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer à différents niveaux. D'abord, par exemple, au niveau du traitement social et scientifique des trans, dans les sciences, la médecine, dans les représentations communes, on connaît beaucoup mieux les femmes trans. Elles sont plus visibles, plus étudiées, mieux connues que les hommes trans. Mmh. On peut aussi observer l'empreinte du genre sur les trajectoires de vie des trans. Par exemple, les hommes trans changent de sexe en moyenne 13 ans plus tôt dans leur vie que les femmes trans. Parce que finalement, pour ce qui concerne les femmes trans, au début de leur transition, le fait pour un homme de commencer à s'immuniser et de devenir une femme, ça génère souvent une telle stigmatisation, une telle marginalisation sociale que certaines femmes trans préfèrent pendant de longues années essayer de renoncer à changer de sexe. Elles peuvent même connaître, comme Lily, une première vie conjugale et familiale en tant qu'homme, puis finalement transitionner plus tard dans la vie, alors que pour les hommes trans, le risque social de la transition, il est un petit peu moindre, donc ils peuvent se masculiniser généralement plus jeunes sans avoir connu de vie familiale avant. Enfin, je dirais que le fait de devenir un homme ou une femme, ce n'est pas forcément des processus tout à fait équivalents. Les hommes trans commencent à se rendre compte avec la transition qu'ils subissent moins le sexisme qu'avant, et que ce sexisme au bout d'un moment disparaît, alors que les femmes trans commencent à se confronter finalement à ce sexisme qu'elles découvrent avec la transition. Ce n'est pas tout à fait les mêmes processus. Je trouvais que c'était important de parler de genre de ce point de vue-là, parce qu'on entend souvent parler d'identité de genre à propos des trans, mais on parle rarement du genre sous cet angle-là.
Ouais. Emmanuel Beaupaty, vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous serons avec Peggy. Elle a accompagné son fils dans son parcours de transition.
Et le message de Sandrine qui témoigne sur Facebook, qui est une maman. Je suis la maman d'Alex, transgenre de 16 ans et demi. À 15 ans, il a eu la révélation de sa transidentité. Quelques séances de psy pour établir la dysphorie de genre. Puis changement officiel de prénom à la mairie. Il s'appelait Jade. Il va commencer un traitement hormonal avant un parcours chirurgical. À 18 ans, Alex pourra enfin changer de genre et devenir un monsieur.
Europe 1.
Vous ne vous identifiez pas avec le genre qu'on vous a assigné à la naissance, 39-21 pour témoigner. Vous ne vous sentez pas vous-même avec le sexe qu'on vous a assigné à la naissance. On parle du parcours de transition des personnes transgenres. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Peggy sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Peggy, merci d'être
Bonjour.
Avec nous cet après-midi. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Peggy ?
Alors, j'ai 46 ans, j'habite en Saône-et-Loire,
ouais.
D'un côté d'Autun.
D'accord, alors vous êtes la maman de James qui a aujourd'hui 18 ans.
Oui.
James a été assigné femme. Vous avez remarqué très tôt qu'il ne se sentait pas bien, à travers des passages de dépression. Il était harcelé à l'école. Vous ne compreniez pas ce qu'il se passait exactement. Puis un jour, James vous a envoyé un texto. Racontez-moi.
Non, en fait, on était pas chez nous et il voyait un psychologue depuis ses 9 ans.
Oui.
Et il avait donc 16 ans et demi. Et on n'était pas à la maison et je savais qu'il voulait qu'on aille avec lui à son rendez-vous avec le psychologue la semaine d'après. Mmh. Et il me disait, oui, il y a quelque chose d'important, etc. Et là, il nous a envoyé un texto, et je pense en profitant qu'on ne soit pas à la maison. Et je voyais bien qu'il avait envie de me dire quelque chose. Donc, il m'a dit, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Il faut absolument que vous veniez. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il nous a dit, bon ben, j'ai quelque chose, c'est sur mon ressenti de ce que je suis. Et je lui ai demandé s'il était homosexuel.
Oui.
Et il m'a dit, non, c'est ça, mais pas ça. Alors je lui ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a dit, en fait, je suis un garçon.
Mmh. Et vous avez...
Et je lui ai dit, ok.
Mmh. Parce qu'on entendait tout à l'heure Lily parler... de la réaction de sa maman qui différait vraiment de celle de son papa. Vous, en tant que mère, vous avez tout de suite, on a l'impression, hein, c'est ce que j'ai entendu dans votre voix, vous avez tout de suite capté ce qu'il était en train de vous dire.
Oui, oui, oui. En fait, moi je l'ai tout de suite dit à mon mari et on s'est senti soulagés.
Mmh.
Soulagés parce qu'on pouvait au moins savoir ce qu'il avait et au moins pouvoir l'aider maintenant.
Mmh. C'était finalement une évidence d'accompagner votre fils là, maintenant, dans ses démarches, lorsque vous avez compris ça?
Oui.
Mmh.
Oui, oui, tout de suite, voilà, le lendemain, voilà, on l'a emmené acheter des vêtements. On est allé à son rendez-vous avec le psychologue et on en a parlé avec le psychologue. Et on a dit, nous, tout de suite, il est hors de question de mettre un frein, de lui dire d'attendre. Là, c'est sa vie. Et il est même s'il n'était pas aussi âgé, mais c'est sa vie, c'est à lui de voir ce qu'il ressent et ce qu'il veut être.
Vous avez été de vrais parents, j'ai envie de dire. Vous avez continué d'accompagner votre enfant. James donc s'est allé engager dans un long parcours, hein, très vite.
Oui.
Son souhait, lui, c'était de se faire opérer.
Oui, la mastectomie au moins.
Mmh. Comment vous l'avez accompagné moralement et financièrement aussi? Parce que dans ce parcours, on l'a entendu tout à l'heure avec Emmanuel Beaupaty, il y a une question financière, hein, qui se pose, de remboursement. Comment vous vous êtes positionné par rapport à tout ça?
Ben, nous, on a déjà entamé les démarches pour avoir l'ALD,
oui,
auprès de notre médecin généraliste.
L'ALD qui est...
Ensuite, qui est l'affection longue durée, donc qui est une prise en charge des soins par la sécurité sociale.
Mmh.
Donc de ce qui est remboursable, bien sûr.
Oui.
Il peut y avoir des choses qui ne sont pas remboursables. Donc, et une fois qu'on l'a eu, bon, bah, il a commencé bien sûr la prise de testostérone avec un endocrinologue.
Mmh.
Et nous sommes allés rencontrer un chirurgien à Lyon au mois de septembre l'année dernière, au mois de septembre 2018.
Oui.
Et qui nous a donné un devis au totalité 5 238 € exactement.
Oui.
Sachant que la sécurité sociale rembourse à peu près 230 €.
Mmh.
Et enfin, sur les dépassements d'honoraires, parce que bien sûr, c'est des dépassements d'honoraires. Hein. Là-dessus, il y a bien sûr 1 500 € de clinique qui, elle, peut être remboursée,
mmh,
par la sécurité sociale, et un dépassement aussi d'anesthésiste. Donc nous, ben, on a fait un prêt à la banque.
Et sa sœur
nous a prêté le reste.
Mmh.
Alors, oui, bien sûr, il était hors de question de repousser pour une question financière.
Parce que James est enfin lui-même, aujourd'hui, épanoui. Comment l'a pris votre entourage? Et puis, très vite après, on vous écoutera ce que vous souhaiteriez aux parents qui, aujourd'hui, ne savent pas réagir face à cet enfant qui exprime la même chose que James l'a exprimé auparavant. Mais comment l'a pris votre entourage d'abord?
Bien. Bon, il peut y avoir des réflexions comme c'est trop tôt, il faut attendre, c'est une mode, ça va lui passer.
Mm-hmm.
Mais James a encore ses 4 grands-parents qui l'ont très bien pris, qui le soutiennent. ses frères et sœurs, puisqu'il a un petit frère et deux grandes sœurs.
Oui.
Qui le soutiennent aussi. Son petit frère, il avait 6 ans quand il l'a su. Et mmh. Il l'a compris lui-même, d'ailleurs. Il nous entendait parler et il lui a dit « Moi, j'ai compris ». Et on lui a dit « Mais tu as compris quoi ?» Et il lui a répondu « J'ai compris, en fait, à l'intérieur, tu es un garçon ». Je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Et voilà, même pour lui, c'est son frère, c'est son grand frère. On peut, c'est vrai, avoir certaines personnes qui nous reprochent d'aller trop vite. Mais non.
Mais ces personnes-là...
Pour eux, peut-être, ça va vite. Mais pour James, c'est depuis l'enfance qu'il est malheureux. Il fallait pas attendre.
Et Peggy, j'ai envie de vous dire que il n'est pas du tout... personne n'est à votre place, en fait. Donc, personne n'est à votre place de parent. Donc, j'allais vous poser la question, quel conseil vous donneriez aux parents aujourd'hui? Mais vous m'avez donné cette réponse avec des grands-parents, hein, chacun de leur côté, hein, les grands-parents paternels, les grands-parents maternels,
oui,
qui accompagnent James aujourd'hui, ses frères et sœurs qui l'accompagnent, et puis vous qui continuez à l'accompagner. Donc, le meilleur des conseils, il résidait dans votre témoignage, lorsqu'un enfant aujourd'hui exprime cela, eh bien, il faut l'accompagner, l'écouter, le comprendre et puis entamer ce parcours à ses côtés. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Maïssa. Elle a dû quitter son pays pour devenir pleinement elle-même.
Europe 1.
Que vit-on quand on ne s'est jamais senti soi-même dans le corps qui nous a été assigné ? On parle du parcours de transition des personnes transgenres. Votre parcours, peut-être l'un de vos proches, on vous attend au 39-21. Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Nous parlons du parcours de transition des personnes transgenres. Vous êtes assigné homme ou femme et c'est une souffrance. Par quoi êtes-vous passé ? Venez nous raconter votre histoire. On vous attend au 39-21.
Un témoignage, celui de Peggy tout à l'heure, maman de James, hein, qu'elle a accompagné. Je reviens encore, hein, sur ce point qui est tellement important, d'accompagner ses enfants et de les entendre. Ce qui n'a pas sûrement été le cas de Maïssa, que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1 et avec qui nous allons pouvoir partager. Bonjour Maïssa.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 24 ans.
Oui.
Et je vous appelle du Détroit.
D'accord. Alors Maïssa, je précise que votre voix est volontairement un peu modifiée, car vous êtes née dans une famille traditionnelle, hein, dans un pays du Maghreb.
Exactement.
Et que vous ne préférez pas citer votre réel prénom. Vous dites que votre différence, vous l'avez sentie très tôt. Comment cela se manifestait-il déjà?
Je dirais déjà par un manque d'assimilation, qui était très tôt.
Oui.
Donc, je me retrouvais dans des groupes... En fait, j'entends ma voix qui se répète.
Vous entendez votre voix?
Oui, qui se répète. Du coup, je n'arrive pas à me concentrer. Donc.
Alors, est-ce que votre radio est allumée en même temps ou pas?
Non, pas du tout.
D'accord. Alors, on va essayer de régler ça.
D'accord. Du coup, je vous ai dit que je veux me retrouver dans des groupes où je ne partageais rien avec les individus qui étaient composés, c'est-à-dire... avec des garçons, etc. Je me demandais pourquoi je devais être au sein de ces groupes.
Oui.
Pourquoi je refusais d'être perçue comme je devais finalement l'être d'après les règles de l'art. Pourquoi tout ce qui m'attirait, qui m'intéressait, qui m'était finalement interdit.
Oui.
Et pourquoi ni mon savoir-être, ni ma personnalité ne concordaient avec la carapace que les gens voyaient à l'extérieur.
Mmh. Est-ce que c'était impossible pour vous de mettre des mots sur ce que vous ressentiez, de comprendre, ou est-ce que vous avez vite compris ce qui se passait à l'intérieur de vous?
Alors c'était plus le deuxième choix. Je savais déjà que, voilà, que j'étais une fille, j'attendais désespérément, on va dire, l'âge de la puberté pour prouver finalement au monde que j'étais vraiment une fille. Mais ça ne s'est pas passé comme je le prévoyais, et donc c'était pour moi un moment délicat et difficile à vivre.
Vous avez su tout aussi rapidement que vous ne pourriez jamais être vous-même dans votre pays, hein, on ne précise pas à quel pays, c'est un pays du Maghreb, avec votre entourage en fait. Ça veut dire que dès le début, vous saviez que ça allait être impossible d'en parler avec eux ?
Bah oui, je le sais très tôt à travers les remarques de mon entourage, donc des critiques, des insultes en permanence, donc de la part de mes camarades de classe et puis aussi des personnes adultes, donc même du corps qui est censé être éducatif. Donc,
pourquoi des insultes ? Pardonnez-moi, pourquoi des insultes ?
Parce que les comportements, parce que moi, je ne me cachais pas, je ne vivais pas sous contrôle.
D'accord. Cela veut dire que vos choix, votre sensibilité, tout était guidé par qui vous étiez, hein, en fait.
C'est-à-dire que sensibilité ne rimerait pas avec virilité, que douceur est à proscrire quand on est justement né de sexe masculin. Et du coup, une fois à la récré, il y avait un camarade de classe, et j'étais justement à l'équivalent du CE2 en France. Oui. Et donc, quand mon camarade de classe vient me dire « Eh bien, tu sais, mon père m'a dit que tu étais une erreur de la nature. »
D'accord.
Ouais. Voilà. Et donc, là, forcément, on comprend avec tout un tas de péripéties similaires à celle-ci que notre place ne peut pas être là-bas.
Votre place, de toute façon, lorsqu'on vit hein, ce type d'assignation, hein, on parlait de cela tout à l'heure, on a l'impression que la place que la société vous attribue à ce moment-là, elle n'est nulle part. À l'âge de 20 ans, vous êtes donc arrivé en France. Ça a été un véritable soulagement pour vous. Vous vous sentiez plus libre quand vous êtes arrivé ici ?
Alors, je me sentais moins obligée de me rendre invisible. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément accorder d'importance à vos faits, vos gestes. Bon, certes, peut-être certaines personnes pourraient trouver choquant de voir un physique masculin avec tout ce qu'il dégage. Je veux dire, qui dégage beaucoup trop de féminin qu'il ne devrait. Ici en France, je n'avais pas trop ressenti ce malaise et j'ai commencé à me libérer, à m'accepter petit à petit, encore davantage. Et voilà, donc c'était comme ça.
Comment se passe votre vie de femme aujourd'hui, Maïssa, ici en France, où malgré tout, même si la société continue de porter un regard parfois difficile encore à comprendre, mais comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Quelle est votre vie ?
Je suis très épanouie, très heureuse, indépendante. Avant, j'avais besoin de plaire aux gens pour exister. C'est-à-dire que je devais valider, que les autres devaient me valider avant. C'est-à-dire que je devais surveiller mes manières, surveiller ma voix, etc. Mais là, je suis vraiment moi-même. Je n'ai même plus besoin de la validation de quiconque. Donc,
Et bien, c'est tant mieux, non ? De ne plus avoir besoin de validation. Merci beaucoup, Maïssa, pour votre appel et pour votre témoignage. Nous serons dans quelques instants avec Rachel. Elle peut enfin dire ce que c'est d'être enfin elle-même aujourd'hui.
Europe 1. Le sexe mentionné dans votre état civil ne correspond pas à votre identité. On parle des personnes transgenres. Venez échanger avec nous au 3921. Vous avez toujours eu la sensation d'être né dans le mauvais corps. On parle des personnes transgenres aujourd'hui. Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Rachel. Bonjour Rachel, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors Rachel, cela fait 3 ans que vous êtes pleinement vous-même. Vous dites que la transition, c'est un véritable tourbillon, c'est le parcours d'une vie. Quand la vôtre s'est-elle terminée ? Qu'avez-vous ressenti ? Qu'est-ce que cela voulait-il dire pour vous ?
Alors, si tant est qu'on puisse considérer qu'une transition se termine, moi j'estime qu'elle s'est terminée il y a environ 3 ans, à l'été 2016.
Oui.
Ce que ça veut dire, c'est que moi j'ai le sentiment, alors je vous dis ça avec le recul que j'ai de ces 3 ans, j'ai l'impression que pendant une transition, on est très, je dis on, mais je parle pour moi, hein, je ne veux pas faire de généralité, on est très sur centré sur mon nombril en quelque sorte, quoi. Mm-hmm. C'est quelque chose de très intime. Et d'une certaine manière, quand ça se termine, finalement, on se redresse un peu, on réouvre les yeux pour se réouvrir au monde en quelque sorte. Je dirais ça comme ça.
Oui. Comment la société vous a renvoyé cette transition lorsque vous avez réouvert ses yeux, justement?
Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, on se réveille, mais on se réveille pas, mais j'ai réouvert les yeux dans un paysage qui était familier, qui était similaire à celui que j'avais connu avant, mais un petit peu différent dans le sens où j'étais pas au même endroit, quoi. Du coup, les choses m'apparaissaient pas de la même manière, j'étais pas au même endroit dans la société.
C'est-à-dire,
j'étais à la place d'une femme dans la société, si vous
voulez.
Et plus à la place de celle qu'on me percevait avant. J'ai jamais eu le sentiment d'être un homme, mais la société me percevait comme un homme avant.
Mmh. Alors justement, ce sentiment d'être un garçon, comme vous le dites, c'est la société qui vous renvoyait cela. Mais qu'est-ce qu'être une femme pour vous aujourd'hui, votre vie aujourd'hui? Racontez-la-moi.
Alors, pour être honnête, je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme. Et justement, moi je sais ce que je suis une femme et je suis très heureuse comme ça. Mais ce que je trouve qui est particulièrement intéressant, justement avec le petit recul que j'ai, c'est que les rôles genrés nous apparaissent d'autant plus, basés sur pas grand-chose, quoi. Et c'est ça qui est très original de voir, parce que finalement, voilà, je me suis retrouvé dans une position différente dans la société, alors que moi je suis moi finalement, et
oui,
en soi j'ai pas le sentiment d'avoir changé finalement. Mmh. Et sauf que la société n'interagit pas de la même manière avec vous. Je vous fais pas un dessin, la société elle est sexiste, il se trouve que je suis lesbienne et la société elle est quand même plutôt homophobe.
Mmh.
Donc forcément c'est un changement de ce point de vue là.
Mmh. Vous avez l'impression d'en apprendre tous les jours sur cette société plutôt que sur vous? C'est ce que j'entends dans vos mots. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou vous en apprenez beaucoup sur vous?
J'en apprends beaucoup sur moi, mais comme quand chacun mûrit, si vous voulez, pas que les personnes trans. Mais effectivement, je trouve que c'est très, très instructif sur comment la société fonctionne. Je n'ai pas la prétention d'avoir un point de vue absolument révolutionnaire sur comment la société fonctionne, mais je trouve que ça nous apparaît d'autant mieux ce fantasme de la différenciation absolue des genres, quoi. Et je trouve que c'est presque amusant.
Mmh. En quoi c'est amusant? Parce que je traduis un peu ce que vous voulez, en tout cas comment je reçois, c'est que vous aujourd'hui le pas que vous avez fait, il est quand même énorme, le pas que vous avez fait, parce que c'est un long chemin, mais aux yeux de la société, en tout cas aux yeux de ceux qui aujourd'hui vivent autour de vous, on a l'impression en fait que voilà, il s'est passé un tout petit truc et que vous êtes là et que vous avez pris votre place ou repris votre place un peu différente, mais que vous êtes là et que finalement ça n'est pas quelque chose d'énorme.
Moi j'ai le sentiment que, comment dire, je suis une personne augmentée par rapport à avant, si vous voulez.
Oui.
C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit. Oui. Ce que j'ai dit à mes amis quand j'ai fait mon coming out, c'est-à-dire que jusque-là, j'étais à 25 ou 30% de mes capacités, maintenant, ce sera 90 ou 95%, si vous voulez.
Mm-hmm.
Et ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Mais c'est je puis dire, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais un mois en mieux, c'est pas un mois différent. Si vous voulez, il y a quelque chose du tout change et rien ne change, en fait.
Mm-hmm.
Et,
mais il y a quelque chose de l'accomplissement aussi.
Oui, voilà. Et, comment dire, l'impression. Moi, j'avais l'impression d'avoir deux boulets au pied et je les ai plus, quoi. Et je fais bien plus de choses maintenant, si vous voulez. Et oui, moi, je ne sais pas, je ne veux pas parler à leur place, mais j'ai l'impression que mes amis ou ma famille, ils ont plutôt l'impression de voir quelqu'un de plus accompli, de plus épanoui qu'avant.
Mm-hmm.
Mais une personne. Mes patients sont les mêmes, si vous voulez.
Oui. Et surtout, je sens que vous vous sentez tellement plus légère aujourd'hui, Rachel.
C'est exactement ça, c'est le bon mot. Beaucoup plus légère, ouais.
Merci beaucoup pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Lily, à Peggy, à Maïssa et à Emmanuel Beaupaty pour ses éclairages, pour ses précisions. Nous l'avons entendu hein, tout au long de cette émission, ne pas se sentir soi-même, être né dans le mauvais corps est difficile à vivre. Si la société évolue sur ces questions, être transgenre, c'est s'exposer tout de même aux préjugés, s'engager dans un véritable parcours du combattant pour aller mieux et faire entendre ses droits. Il existe de nombreuses associations pour vous aider, l'ANT, l'Association Nationale Transgenre ou l'organisation BDD Trans qui pourra vous orienter vers des médecins compétents et bienveillants et qui pourront vous aider à faire ce premier pas et le deuxième et le troisième et pour que cette société finisse enfin par comprendre que voilà, on avance tous à notre rythme et comme on veut et comme on peut. On peut continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Alors merci déjà, merci beaucoup pour les témoignages qu'on a eus sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, puisqu'ils étaient extrêmement touchants et puis on a le plaisir à vous lire. Donc vous n'hésitez pas à discuter évidemment sur Facebook, sur Instagram, Olivier Delacroix officiel. Et puis vous pouvez vous confier à Sophie Pétard ce soir, le soir, vous échanger lors de la libre antenne d'Europe 1, 22h30, 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons du manque de confiance en soi. Comment y remédier ? Vaste question. Si vous avez toujours manqué de confiance en vous, que ce soit dans vos relations ou dans le travail, si vous avez essayé de gagner en confiance sans y arriver vraiment, si un membre de votre entourage doute constamment de lui, si vous doutez de vous tout simplement, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'étais ravi encore de passer cette heure avec vous. C'est incroyable. Nous sommes au bout de la 140e. Ça passe vite et je suis toujours aussi ravi.